Question. Eh bien, je pense que tu exagères un peu ici, ne le crois-tu pas? Réponse. Vraiment? Selon toi, qu'est-ce qu'un enfant de 4 ou 5 ans retient lorsque les parents n'utilisent même pas le terme exact désignant certaines des parties de son corps? Dites-vous à l'enfant que vous êtes à l'aise à cet égard? Lui dites-vous qu'il peut l'être? Question. Réponse. Oui, en effet. Question. Eh bien, on n'utilise pas ces mots-là, c'est tout, disait ma grand-mère. Seulement zizi et foufoune, c'est plus joli. Réponse. Et parce que vous avez aussi un grand bagage négatif rattaché au nom réel de ces parties du corps, vous pouvez à peine utiliser les mots dans une conversation ordinaire. En bas âge, bien entendu, les enfants ne savent pas pourquoi leurs parents pensent ainsi, mais on leur laisse l'impression que certaines parties du corps ne sont pas correctes et que tout ce qui s'y rapporte est gênant, sinon mal. Lorsque les enfants grandissent et que survient l'adolescence, ils peuvent réaliser que cela n'est pas vrai. Mais alors, on leur explique en termes très clairs le rapport entre la grossesse et la sexualité, et on leur rappelle qu'ils auront à élever les enfants qu'ils créent. Dès lors, ils ont une autre raison de croire que l'expression sexuelle est mauvaise, et la boucle est bouclée. Ce que tout cela a provoqué dans votre société, ce sont de la confusion et des dégâts non négligeables, résultats incontournables lorsqu'on fait des gaffes avec la nature. Vous avez créé la gêne, la répression et la honte vis-à-vis du sexe, ce qui a mené à l'inhibition, à la dysfonction et à la violence sexuelle. En tant que société, vous avez toujours été inhibé devant ce qui vous gêne, toujours eu une dysfonction face à des comportements réprimés, et avez toujours agi d'une manière violente en guise de protestation contre le fait qu'on vous ait appris à avoir honte de choses dont vous n'auriez jamais dû avoir honte, d'après votre cœur. Question. Freud avait donc raison d'affirmer qu'une immense proportion de la colère de l'espèce humaine est peut-être reliée à la sexualité, là où une rage profonde découle du fait de devoir réprimer des instincts, des intérêts et des désirs physiques fondamentaux et naturels? Réponse. Nombre de vos psychiatres ont avancé cette idée. L'être humain est en colère parce qu'il sait qu'il ne devrait ressentir aucune honte à propos d'une chose qui donne autant de plaisir. Et pourtant, il ressent de la honte et de la culpabilité. Tout d'abord, l'être humain se met en colère contre le soi parce qu'il a tellement de plaisir à propos d'une chose censée être si mauvaise de toute évidence. Puis, lorsqu'ils se rendent compte qu'on les a dupés, que la sexualité est supposée être une part merveilleuse, honorable et splendide de l'expérience humaine, les êtres humains se mettent en colère contre les autres, contre les parents qui les ont réprimés, contre la religion qui leur a donné la honte, contre les membres du sexe opposé qui les ont mis au défi et contre la société entière qui les a dominés. Finalement, ils se mettent en colère contre eux-mêmes, s'en voulant d'avoir laissé tout cela les inhiber. Une grande part de cette colère réprimée a été canalisée vers la construction de valeurs morales faussées et peu judicieuses dans une société qui glorifie et honore avec monuments, statues, timbres commémoratifs, films, images et émissions de télévision certains des actes de violence les plus laids du monde, mais qui cachent, ou pire encore, qui déprécient, certains des actes d'amour les plus beaux. Et tout cela, a émergé d'une seule pensée, que ceux qui engendrent des enfants portent également la seule responsabilité de les élever. Question. Mais si les gens qui mettent des enfants au monde ne sont pas responsables de les élever, qui l'est? Réponse. La communauté entière, en particulier les aînés. Question. Les aînés? Réponse. Parmi les races et les sociétés les plus évoluées, les aînés élèvent, nourrissent, forment la progéniture et lui transmettent la sagesse, les enseignements et les traditions de leur espèce. J'y reviendrai plus tard, lorsque nous parlerons de certaines de ces civilisations avancées. Dans toute société où la procréation à un jeune âge n'est pas considérée comme mauvaise, parce que les aînés de la tribu élèvent les enfants et qu'il n'y a, par conséquent, aucun sentiment de responsabilité et de fardeau écrasant, la répression sexuelle est inconnue, ainsi que le viol, la déviance et la dysfonction socio-sexuelle. Question. Y a-t-il de telles sociétés sur notre planète? Réponse. Oui, bien qu'elles soient en train de disparaître. Vous avez tenté de les éradiquer, de les assimiler, parce que vous les avez prises pour des barbares. Dans ce que vous avez appelé vos sociétés non-barbares, les enfants, de même que les conjoints d'ailleurs, sont considérés comme une propriété, comme des biens personnels. Et par conséquent, ceux qui engendrent des enfants doivent devenir ceux qui les élèvent, parce qu'ils doivent prendre soin de ce qu'ils possèdent. Une pensée racine se trouve à la base d'un grand nombre des problèmes de vos sociétés. L'idée selon laquelle les conjoints et les enfants sont des biens personnels, qu'ils sont à vous. Nous examinerons plus tard cette question de la propriété, en explorant et en discutant de la vie chez les êtres hautement évolués. Mais pour l'instant, songez seulement à ceci. Y a-t-il des gens vraiment prêts à élever des enfants à l'époque où ils sont physiquement prêts à les avoir? En vérité, la plupart des humains ne sont pas munis pour élever des enfants, même au cours de leur trentaine et de leur quarantaine. Et il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils le soient. Ils n'ont pas vraiment assez vécu en tant qu'adultes pour transmettre une sagesse profonde à leurs enfants. Question. J'ai déjà entendu cette réflexion. Mark Twain en a parlé. On rapporte qu'il a fait ce commentaire. Je cite. « Quand j'avais 19 ans, mon père ne savait rien. Mais quand j'ai eu 35 ans, j'ai été étonné de voir tout ce que le vieux avait appris. » Réponse. Il l'a parfaitement exprimé. Vos jeunes années n'ont jamais été faites pour l'enseignement de la vérité, mais pour la cueillette de la vérité. Comment pouvez-vous enseigner aux enfants une vérité que vous n'avez pas encore trouvée? Bien sûr, vous ne le pouvez pas. Alors, vous finissez par leur dire la seule vérité que vous connaissez, celle des autres. De votre père, de votre mère, de votre culture, de votre religion. Tout, absolument tout, sauf la vôtre. Vous êtes encore en train de la chercher. Et vous allez chercher, expérimenter, trouver, échouer, former et reformer votre vérité, l'idée que vous vous faites de vous-même, jusqu'à ce que vous ayez atteint un demi-siècle sur cette planète, ou presque. Puis, vous commencerez peut-être enfin à vous établir et à vous installer avec votre vérité. Et la vérité la plus grande, à laquelle vous vous accorderez, probablement, c'est qu'il n'y a aucune vérité constante, que la vérité, comme la vie même, est une chose changeante, une chose en croissance, une chose en évolution, et qu'au moment même où vous croyez que ce processus d'évolution s'était arrêté, il ne s'est pas arrêté, il ne fait que commencer. Question. Oui, j'en suis déjà arrivé là. J'ai plus de 50 ans et c'est là que j'en suis. Réponse. Bien. À présent, tu es un homme plus sage, un aîné. À présent, tu devrais élever des enfants. Mieux encore, dans 10 ans. Ce sont les aînés qui devraient élever les enfants, et qui y étaient destinés. Ce sont eux qui connaissent la vérité et la vie, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ce que veulent vraiment dire des termes comme intégrité, honnêteté, loyauté, amitié et amour. Question. Je vois l'argument que tu viens de soutenir. Il est difficile à accepter, mais nombre d'entre nous venons à peine de passer du statut d'enfant à celui d'étudiant lorsque nous avons des enfants à notre tour et avons l'impression de devoir commencer à leur enseigner. Alors nous nous disons, eh bien, je vais leur enseigner ce que mes parents m'ont enseigné. Réponse. C'est ainsi que les péchés du père sont transmis au fils, même jusqu'à la 7e génération. Question. Comment pouvons-nous changer cela? Comment pouvons-nous mettre fin au cycle? Réponse. Faites élever vos enfants par vos aînés qui sont respectés. Les parents voient les enfants chaque fois qu'ils le veulent, vivent avec eux s'ils le veulent, mais ne sont pas les seuls responsables de leurs soins et de leur éducation. Les besoins physiques, sociaux et spirituels des enfants sont satisfaits par la communauté entière, et l'éducation et les valeurs sont offertes par les aînés. Plus tard dans notre dialogue, lorsque nous parlerons des autres cultures dans l'univers, nous examinerons certains modèles de vie. Mais ces modèles ne s'accordent pas à la structure actuelle de votre vie. Question. Qu'entends-tu par là? Réponse. Je veux dire que ce n'est pas seulement l'art d'élever des enfants qui correspond à un modèle inefficace, mais toute votre façon de vivre. Question. Encore une fois, que veux-tu dire? Réponse. Vous vous êtes éloignés les uns des autres. Vous avez démembré vos familles, désassemblé vos petites communautés en faveur de villes immenses. Dans ces grandes villes, il y a plus de gens, mais moins de tribus, de groupes ou de clans dont les membres savent que leur responsabilité inclut celle de l'ensemble. Alors en effet, vous n'avez pas d'aînés, aucun à portée de la main en tout cas. Vous avez fait pire que de vous éloigner de vos aînés, vous les avez repoussés, vous les avez marginalisés, vous leur avez enlevé leur pouvoir, et vous avez même gardé de la rancune envers eux. Oui. Certains membres de votre société ont même de la rancune vis-à-vis des aînés parmi vous, prétendant qu'ils profitent du système, qu'ils exigent des avantages sociaux que les jeunes doivent payer dans une proportion de plus en plus grande de leurs revenus. Question. C'est vrai. À présent, certains sociologues prédisent une guerre de génération On blâme les personnes âgées d'être de plus en plus exigeants tout en participant de moins en moins. Il y a tellement plus de citoyens âgés maintenant, les baby-boomers arrivent à l'âge avancé et les gens vivent en général plus longtemps. Réponse. Mais si vos aînés ne contribuent pas, c'est parce que vous ne leur avez pas permis de le faire. Vous avez exigé qu'ils se retirent de leur emploi au moment même où ils pouvaient vraiment profiter à la compagnie et qu'ils se retirent d'une participation plus active et plus significative à la vie au moment même où leur participation pouvait donner du sens au débat. Ce n'est pas seulement dans l'éducation des enfants, mais en politique, en économie et même dans le domaine de la religion où les aînés avaient au moins un pied, que vous êtes devenu une société qui adore les jeunes et écarte les moins jeunes. Votre société est également devenue singulière plutôt que plurielle, soit une société composée d'individus plutôt que de groupes. Comme vous avez centré votre société à la fois sur l'individualisme et la jeunesse, vous avez perdu une grande part de sa richesse et de ses ressources. À présent, ces deux dernières vous manquent, car trop d'entre vous vivent dans la pauvreté et l'épuisement émotionnel et psychologique. Question. Encore une fois, y a-t-il un moyen de mettre fin à ce cycle ? Réponse. D'abord, observez et reconnaissez que tout cela est réel. Un si grand nombre d'entre vous vivent dans le déni. Un si grand nombre d'entre vous font semblant de ne pas reconnaître ce qui existe. Vous vous mentez à vous-même et vous ne voulez pas entendre la vérité, encore moins la dire. Cela aussi, nous en reparlerons lorsque nous jetterons un regard sur les civilisations hautement évoluées, car ce reniement, cet échec à observer et à reconnaître ce qui existe, ce n'est pas rien. Et si vous voulez vraiment changer les choses, j'espère que vous vous permettrez seulement de m'entendre. Le temps est venu de dire la vérité, purement et simplement. Es-tu prêt ? Question. Je le suis. C'est pour cela que je me suis adressé à toi. C'est ainsi que toute cette conversation a commencé. Réponse. La vérité est souvent inconfortable. Elle ne réconforte que ceux et celles qui ne veulent pas l'ignorer. Pour eux, la vérité est plus que réconfortante, elle devient inspirante. Question. Tout ce dialogue en trois parties, je le trouve inspirant. Continue, s'il te plaît. Réponse. Il y a une bonne raison de se réjouir, de se sentir optimiste. Je vois que les choses commencent à changer. Plus que jamais, au cours des dernières années, votre espèce met davantage l'accent sur la création d'une communauté et l'élaboration de familles élargies. De plus en plus, vous honorez vos aînés en produisant du sens et de la valeur dans, et à partir d'eux, leur vie. C'est là un grand pas dans une direction merveilleusement utile. Alors, les choses s'inversent. Votre culture semble avoir entrepris cette étape. À présent, vous avancez à partir de là. Vous ne pourrez effectuer ces changements en un jour. Vous ne pourrez, par exemple, transformer toute votre façon d'élever des enfants, le point de départ de cet enchaînement de pensées, d'une seule traite. Mais vous pouvez modifier votre avenir, étape par étape. La lecture de ce livre constitue l'une de ces étapes. Avant de tirer à sa fin, ce dialogue reviendra sur bien des points importants. Cette répétition ne sera pas accidentelle, mais servira à insister sur certains points. Alors, tu as demandé des idées pour la construction de ton avenir ? Commençons par examiner ton passé.